we're not going to control the pandemic. We are going to control the fact that we get vaccines, therapeutics, and other mitigation areas.
Why aren't we going to get control of the pandemic?
Because it is a contagious virus, just like the flu.
Yeah, but why not make efforts to contain it?
Well, we are making efforts to contain it.
By running all over the country, not wearing a mask? Jake, that's what the vice president's doing.
Et de la chicane, on est tutané. Loïc Tassé, bonjour.
Bonjour, Benoît.
Qu'est-ce qu'on vient d'entendre?
On vient d'entendre Mark Meadows, qui est le chef du personnel à la Maison-Blanche, qui était sur CNN, et qui, hier soir, comme ça, a tout bonnement dit, vous savez, le gouvernement va laisser le virus se répandre. Nous n'allons pas lutter activement contre le virus. Donc, les mesures de distanciation, les masques, tout ça, non, on peut rien faire pour ça. Le virus va se répandre. Par contre, c'est vrai, on va aider les hôpitaux, on va aider les gens à avoir des médicaments, et puis on va faire la promotion du vaccin. Ben, t'écoutes ça, puis tu dis, oui, mais un instant, là. Les États-Unis sont en pleine progression du vaccin qui atteint des sommets inégalés. On va dépasser les 100 000 personnes contaminées par jour. Puis on le sait avec les autres pandémies qu'il y a eu dans le monde, on sait que quand on prend des mesures pour lutter contre une pandémie, ça fait moins de morts. Donc ce qu'ils viennent de dire littéralement, c'est que oui, on baisse les bras. La pandémie, le virus a gagné. On laisse le virus se répandre aux États-Unis. Ceux qui ont de l'argent puis qui ont des assurances, tant mieux pour eux, ils pourront se faire soigner. Mmh. Les autres, c'est bien dommage.
Mais,
on aura jusqu'à cet été.
Non, mais Mike Pence, hier, à 60 Minutes, disait, nous, on fait confiance aux familles américaines de prendre des mesures de distanciation sociale, de porter une masque, de faire attention.
Ben oui, puis c'est pour ça que Donald Trump tient des rallyes partout, des rassemblements sans masque partout.
C'est ce que Leslie Stahl lui disait. Il disait, pourquoi vous êtes pas là, au podium, à dire aux gens, mettez-vous un masque, éloignez-vous les uns des autres. Et il dit rien, puis Trump est parti, il s'est levé, parti. C'est ça le moment où elle s'est tenue debout, d'ailleurs, dans l'entrevue. Puis il y avait aussi l'entrevue avec Nora O'Donnell, avec Joe Biden, hier à 60 Minutes. Allez voir ça sur le site, ça doit être sur le site de CBS. C'est assez instructif. Fait que y en a plus de mesures de contrôle de la pandémie aux États-Unis.
Non. Et puis comme je te disais, ça veut dire que le vaccin, au mieux, il va être approuvé au mois de décembre. Donc on va peut-être commencer, parce qu'on a déjà commencé à le produire, on va peut-être commencer les vaccinations au mois de janvier, février. Mais tu sais, avant qu'une bonne proportion de la population américaine soit vaccinée, ça va prendre jusqu'à cet été.
Ouais.
Donc ça veut dire que non, ils sont pas sortis du bois. Et il va probablement y avoir une deuxième. La deuxième vague va se poursuivre. Il va peut-être y avoir une troisième vague. C'est une très mauvaise nouvelle aux États-Unis. Et la frontière va rester fermée, bien évidemment. Je pense pas que la frontière entre le Canada et les États-Unis...
Non, il n'y a pas d'urgence à ouvrir. Hein.
Non.
Pas pressé.
Je veux dire, il n'y a pas d'urgence à y aller non plus.
Non plus.
Voyant ce qui est la façon dont, dans plusieurs endroits, on traite la pandémie. Tu sais, il n'y a personne qui a très envie d'aller se promener aux États-Unis en ce moment.
Non, pas tant. Ce qui se passe en France aussi, là, c'est troublant.
C'est très troublant parce que, en fait, ça engage en ce moment il y a une rivalité entre Erdogan, le président de la Turquie, et Macron, le président de la France, à propos de toute la question islamique, je devrais dire islamiste, en fait. C'est que la Turquie a appelé, figure-toi, au boycott de tous les produits français. C'est pas la première à avoir fait ça. En fait, il y avait le Koweït hier qui l'avait fait, puis il y avait un boycott qui était engagé dans plusieurs commerces à travers le monde musulman. Tout ça pourquoi? Parce que la France a dit qu'elle autorisait la publication des caricatures de Mahomet et que plus que ça, ils allaient distribuer dans des écoles des livres expliquant la liberté d'expression avec des caricatures de Mahomet. Donc, il y a une grande vague de boycott contre les produits français qui s'est engagée, mais plus que ça, on voit que Erdogan monte en première ligne parce qu'entre autres aussi, le gouvernement français ne veut plus d'avoir d'imams de l'extérieur qui viennent enseigner l'islam en France, qui sont dans des mosquées. Il y en a 300. C'est la moitié de tous les imams en France qui sont d'origine turque.
Ah ouais.
Oui. Et donc Erdogan, évidemment, les protège, il n'est pas content du tout de voir ça, mais Erdogan, il faut le rappeler, est un islamiste.
Mais qui va endoctriner...
religieux.
Mais s'il les retourne chez eux, ces 300 imams-là de la Turquie, qui va endoctriner les enfants et les gens?
En théorie, on va former des imams en France avec des valeurs républicaines. Bonne chance. Bonne okay. chance, parce que je vois pas très bien comment ça va se faire. Il y a des gros problèmes en ce moment en France, par exemple dans les lycées. Il y a des sondages qui sont sortis qui sont estomacants. Il y a une majorité de lycéens qui ne croient pas que l'évolution existe. Il n'y a pas d'évolution des espèces.
Ouais.
Ils croient pas non plus que toutes sortes de choses. Et ils pensent surtout que les lois religieuses, les édits religieux, doivent être placés au-dessus des lois qui sont décidées par les élus. Alors, bonne chance. Et, soit dit en passant, on s'en vient avec ça ici. Faut pas se fermer les yeux.
Ben ouais, ouais,
nous, on est 20 ans en retard sur la France, si je puis dire, dans la propagation de l'islamisme, mais ça s'en vient ici.
Ça s'en vient, certain. On n'a pas entendu Justin Trudeau. Je sais que Richard en a parlé ce matin. Là, moi, j'en ai parlé la semaine passée. On n'a pas entendu Justin Trudeau sur la décapitation de Samuel Paty en France, ce professeur d'histoire. Ce qui est même pas étonnant de la part de Justin Trudeau. Il y a pas ce courage-là.
Et même Erdogan, tu sais, aujourd'hui, parce qu'on lui reprochait justement de pas l'avoir dénoncé, a dit aujourd'hui que c'était un attentat horrible qui n'avait pas sa raison d'être.
Eh ben,
c'est un islamiste.
C'est plus que Justin Trudeau, imagine.
Oui,
c'est étonnant. La pandémie qui s'amplifie en Europe.
Ça s'amplifie beaucoup. Hier, l'Espagne a décrété l'état d'urgence sanitaire jusqu'en mai 2021, pour 6 mois. Alors, il va y avoir des couvre-feux en Espagne entre 23h et 6h du matin. Je sais pas si tu as déjà vécu en Espagne ou été en Espagne, mais 23h, 11h du soir, c'est l'heure où les Espagnols sortent pour aller manger.
On sort la paella, là.
Ben oui, tu sais, ils font une sieste l'après-midi, puis allez hop, vers 10h, 11h, on sort. Donc, l'objectif est d'éviter un confinement total, mais c'est très dur. Il y a plus d'1 million de cas de COVID-19 en Espagne. En Italie aussi, on renforce les restrictions. Désormais, on ferme les cinémas, les théâtres, les salles de sport, et les restaurants vont devoir cesser de servir après 6h du soir, tu vois. Donc, ça va pas très bien en Europe. Il y a vraiment des gros progrès de la pandémie.
6h du soir, là, ils sont en train de dîner.
Ben oui.
Mais dîner.
C'est l'apéro, tu sais, je veux
ben
dire.
Oui. Ils déjeunent après, en tout cas. Ça, c'est des termes européens, québécois, là, qui sont pas coordonnés, hein. Déjeuner, dîner. Ouais, mais notre lunch à nous, là, c'est pour eux autres, ça va être à 6 heures le soir. des sondages de Reuters sur quoi, au juste?
C'est un sondage de Reuters sur les gens qui pensent, qui vont accepter ou non les résultats des élections, dépendant qui va gagner, Trump ou Biden. Alors, c'est très intéressant ce sondage-là, parce que, évidemment, on sait qu'il pourrait y avoir de la violence, il pourrait y avoir de la désobéissance civile après qu'on ait connu qui va être président des États-Unis, ou en tout cas, après le 3 novembre. Ça dépend, évidemment, on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir les résultats exacts. Mais bon. Alors, on a sondé là-dessus les gens. Et 59 des partisans de Trump disent qu'ils accepteraient le résultat si Biden gagnait, et 57% des partisans de Biden disent qu'ils accepteraient le résultat si Trump gagnait. Donc, c'est à peu près la même chose. On est dans la marge d'erreur.
Mm-hmm.
Ce qui est très intéressant, c'est que chez Trump, il y en a 16% qui disent « Non, non, nous, on va faire quelque chose. On va faire des manifestations, on pourrait même recourir à la violence. » Et chez Biden, il y en a 23% qui disent qu'il ferait quelque chose.
C'est
pas spécifié exactement ce qu'il ferait. Donc, au total, si tu veux, un dans l'autre, tu as environ 10% des citoyens qui voudraient faire quelque chose si un ou l'autre candidat gagne. Au total, c'est 21%, mais on s'entend que c'est pas les deux qui vont perdre en même temps. Donc, c'est la moitié de 21%. Donc, à peu près 10% des citoyens qui vont faire quelque chose, soit si Biden gagne, ou l'autre 10% si Trump fait quelque chose. Donc, on a des lendemains d'élections qui vont être mouvementés aux États-Unis.
Hey,
tout le monde prévoit, mais ce qui est maintenant mesuré dans des sondages.
Fait que tout le monde est craqué, là.
Ah oui.
Tout le monde, de chaque côté, là, il y a des crainqués qui refusent le résultat d'une élection que l'on dit démocratique.
Faire quelque chose, ça peut vouloir dire aussi changer de pays. Moi, j'ai beaucoup de famille aux États-Unis, puis je peux t'assurer que mes neveux et nièces, à peu près à 100%,
ouais.
Ben, ils veulent venir au Canada, ou ils veulent aller au Mexique, ou ils veulent aller ailleurs.
Ouais.
Ils veulent sortir des États-Unis si Trump gagne.
Leur as-tu dit pour le chemin Roxham?
Je n'en ai pas parlé encore.
Ben non, ben voyons, t'es en retard sur la nouvelle.
Mais regarde, je m'apprête à ouvrir dans mon jardin un camp de réfugiés pour Américains.
Ah ouais, c'est bon, sors les tentes. On a le temps pour cette bonne nouvelle au Chili, on va apprendre.
Ben oui, prenons-la donc. C'est une bonne nouvelle puisque les Chiliens ont voté à 78% en faveur d'une nouvelle constitution. Elle n'est pas encore écrite, mais parce que la constitution date de l'époque de Pinochet. Et donc les Chiliens ont décidé de changer leur constitution parce qu'ils veulent que le pays soit plus égal. Ils veulent plus d'accès aux soins de santé, à l'éducation, etc. Parce que aussi les gens sont plus riches dans le pays. C'est devenu par habitant le pays le plus riche d'Amérique latine, le Chili. Alors
qu'il y a
20 ans, c'était le plus pauvre. Ah. Oui. Alors les gens sont contents et ils veulent une nouvelle constitution. Donc on a décidé d'aller élire 255 personnes qui vont rédiger une nouvelle constitution. Et puis ensuite, il faudra accepter évidemment cette nouvelle constitution, j'imagine. Mais c'est vraiment une bonne nouvelle quand on pense à ce pays qui auparavant était secoué par d'instabilité politique de toutes sortes. C'est vraiment une belle nouvelle pour les Chiliens.
Ouais, sous Pinochet, là, les exactions, les tortures, le Chili a passé un mauvais quart d'heure.
Oui, oui, puis les opposants qui étaient tués les uns après les autres. Et il faut dire, tu vois, que ça c'est arrivé parce que en novembre 2019, il y a eu une grande manifestation parce que les gens, justement, demandaient une réduction des inégalités. Mmh. Et le président, qui est pourtant un conservateur, Sébastien Piñera, a dit « D'accord, on va le faire ». Évidemment, il y a eu la pandémie, donc ça a retardé un peu ce référendum, mais ça,
ça va
vient d'avoir lieu.
Super.
Et les gens sont vraiment tous très contents. Il y a 78% des gens qui ont voté en faveur de cette nouvelle constitution.
C'est noté. Merci, Loïc. À demain.